Les matins d'été. Julie Gacon.
Jamais les entreprises du CAC 40 n'avaient enregistré autant de bénéfices qu'en cette année 2023, près de 80 milliards d'euros au premier semestre, alors même que l'inflation, la hausse des prix, a non seulement pesé dans leurs dépenses, mais aussi dissuadé ce qu'on appelle ménage d'acheter le superflu. La consommation a chuté de plus de 11% sur les 6 premiers mois de l'année, d'après l'INSEE. Alors comment le CAC 40 a-t-il pu enregistrer ses bénéfices records et comment contribue-t-il à nourrir à son tour l'inflation dans une sorte de cycle infernal? C'est la question du jour que nous posons ce matin à Éric Bert. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux. Votre dernier ouvrage, La dette publique, précis d'économie citoyenne, a paru en 2021 aux éditions du Seuil. Une nouvelle édition paraîtra en début d'année prochaine. Comment ces entreprises, Éric Bert, ont pu faire des bénéfices dans ce contexte de hausse des prix? Est-ce que la seule explication, c'est qu'elles ont aussi monté leurs prix et plus encore que les niveaux de l'inflation?
Oui, c'est exactement ça. En fait, les entreprises, et particulièrement les grandes entreprises, ont usé de ce qu'on appelle leur pouvoir de marché, c'est-à-dire dans ce capitalisme financiarisé où on a une concentration de plus en plus grande, donc où apparaissent un nombre moins important, mais de grandes entreprises qui donc ont un pouvoir sur les prix et ont donc le pouvoir d'augmenter leurs prix au-delà des hausses de coûts qu'elles ont subies, bien évidemment, elles aussi, du fait de ce contexte inflationniste.
Mais même quand ces entreprises fonctionnent sur des contrats à long terme, elles peuvent monter leurs prix en cours de contrat?
Alors, ces contrats, dans un certain nombre de cas, c'est par exemple le cas pour les autoroutes, ces contrats ont été négociés avec une indexation sur l'inflation. Donc, ce qui a permis, par exemple, à Vinci d'augmenter les tarifs autoroutiers de plus de 5%, je crois, cette année, parce que ces contrats sont indexés sur l'inflation. Ce qui n'est pas le cas pour les salaires, comme on a pu le noter. Donc, on a une distorsion, en quelque sorte, entre des entreprises et les grandes entreprises qui se prémunissent contre, ou qui peuvent se prémunir contre l'inflation, et les salaires, eux, qui ne sont pas indexés et qui donc subissent de plein fouet les effets de cette inflation.
Parmi ces entreprises du CAC 40, lesquelles font encore plus de bénéfices que les autres, entre guillemets, est-ce que certaines sont encore plus dans une économie là en ce moment encore plus florissante que les autres?
Oui, alors on a eu avec la crise sanitaire, ça a été tout d'abord les laboratoires pharmaceutiques, le secteur de la technologie qui a engrangé pas mal de bénéfices. Ça a été le secteur des transports, notamment le transport maritime aussi pendant la crise sanitaire qui a profité de la perturbation des chaînes d'approvisionnement pour augmenter ses tarifs. Ça a été ensuite, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, le secteur de l'énergie qui a réalisé beaucoup de profits. Aujourd'hui, c'est l'industrie agroalimentaire qui est le grand profiteur de cette période d'inflation.
Alors, si ces entreprises montent leurs prix, ça veut dire qu'elles contribuent à leur tour à l'inflation. À quelle hauteur est-ce que ça, c'est possible de le calculer, ça?
Alors, il y a eu des calculs qui ont été faits. On peut évaluer à peu près à près de la moitié de la hausse des prix sur les années, on va dire, 2022, depuis fin 2021, début 2022, l'inflation est expliquée à peu près à hauteur de 50% par la hausse des profits. Ça monte même à 70% sur le début de l'année de 2023. Donc on est vraiment dans ce que l'on appelle une spirale prix profit, où ce sont les hausses de prix que peuvent se permettre les entreprises, de par leur position dominante sur les marchés, qui alimentent, alimenter leurs profits, et qui, du coup, créent une hausse des prix, donc de l'inflation.
Donc, une position dominante qui leur permet de monter les prix, donc ce qui montre bien qu'il n'y a rien d'autorégulation dans ces marchés-là, mais à quel moment l'abus de position dominante est caractérisé? À quel moment le politique entre en scène pour dire, ou une instance de régulation, pour dire que là, on est non seulement dans une position dominante, mais dans un abus de position dominante?
Alors c'est toute la question. Le gouvernement, jusqu'à récemment, avait refusé de voir ce qui est pourtant une évidence, hein, qui est même reconnue par la Banque Centrale Européenne ou par le Fonds Monétaire International, à savoir cet abus de position, comme vous dites. Le gouvernement se contente de demander aux grandes entreprises, aux industries, notamment à l'industrie de l'agroalimentaire aujourd'hui, de limiter les prix. Il y a eu un panier anti-inflation, mais qui était au bon vouloir de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution, donc qui n'était pas du tout contraignant. Le politique pourrait avoir un rôle à jouer, et ce rôle, il pourrait être tout simplement de bloquer les prix à la hausse, ou en tout cas de limiter la hausse des prix, ou que cette hausse des prix pourrait être conditionnée à une augmentation des salaires. Ça pourrait être également un blocage des prix pour obliger les industriels à réduire leurs marges et donc à supporter eux-mêmes une partie de l'inflation, ou même taxer, comme ça a été mis sur la table, taxer ce qu'on appelle les super-profits.
Est-ce que ces groupes utilisent ces super profits, ces bénéfices pour investir, pour embaucher, s'ils n'ont pas, pour certains, augmenté les salaires pendant l'inflation? Est-ce qu'ils prévoient de le faire? En tout cas, de quelle manière vont-ils utiliser ces bénéfices?
Alors, ces bénéfices, une partie de ces bénéfices est bien entendu utilisée pour de l'investissement productif, mais ce que l'on constate, c'est qu'ils ont, ces bénéfices ont aussi beaucoup servi à la distribution de dividendes. La France est en pointe dans la distribution de dividendes. Et ça, c'est pas de nature à engendrer le volume d'investissement productif qui est nécessaire et qui est indispensable pour réaliser en particulier la bifurcation écologique dont nous avons besoin. Et ça se traduit pas forcément non plus au niveau de l'emploi, parce qu'il y a un effet quand même qu'il faut bien voir aussi, c'est que cette politique-là, en faisant peser l'inflation, le poids de l'inflation uniquement sur les ménages et très peu sur les entreprises, conduit à une baisse de la demande. On a vu une chute de la consommation, vous l'avez rappelé, de 11% depuis le début de l'année. Et ça, évidemment, à terme, ça va pénaliser l'ensemble de l'économie et les entreprises elles-mêmes.
Est-ce que la situation peut se retourner d'une manière ou d'une autre, Éric Bert, et comment? Parce que c'est contre-intuitif, mais si les profits de ces entreprises augmentent, on constate en revanche que leur croissance baisse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Parce qu'on est dans une situation où cette croissance des profits ne se fait pas pour des raisons positives, on va dire. Cette situation inflationniste, les entreprises ont réussi à plus ou moins s'en affranchir et elles bénéficient des politiques, gouvernementales de baisse d'impôts. En fait, si vous voulez, les marges des entreprises, elles dépendent de quatre facteurs. La baisse des impôts, donc les politiques menées depuis un certain nombre d'années, notamment par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, qui favorisent les taux de marge. Les salaires, ne pas augmenter les salaires, ce qui est fait actuellement. Les salaires réels baissent et ont baissé de 2% en 2022 et vont continuer à baisser. La hausse des prix, ce que font les entreprises actuellement, et tout ça se fait dans un contexte de baisse de la productivité, de la baisse absolue de la productivité, donc des gains de productivité négatifs, ce qui est problématique. Et dans ce contexte de baisse des gains de productivité, c'est-à-dire que les entreprises, de par leur activité économique, ne sont plus en mesure de dégager des profits, elles doivent compter pour ça sur la baisse des impôts accordés par l'État, sur la baisse des salaires réels et sur la hausse des prix. Mais ça, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, que ça va peser sur la demande, tout ça n'est pas durable. Cette situation n'est absolument pas durable.
Merci beaucoup, Éric Bert, de nous en avoir parlé ce matin. Vous êtes maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux. Votre dernier ouvrage, La dette publique, précis d'économie citoyenne, a paru aux éditions du Seuil et une nouvelle édition paraîtra en début d'année prochaine. Merci beaucoup. À cette